إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. رواه مسلم. Donc Abu Amr, et on dit aussi au sujet de sa kunya Abu Amra, Sufyan ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, dis-moi une parole sur l'islam au sujet de laquelle je n'interrogerai nul autre que toi. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam: dis, je crois en Allah, puis tiens-toi sur la droiture. Rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, ce noble compagnon radiyallahu ta'ala anhu, du nom de Sufyan ibn Abdillah, s'est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, afin d'obtenir de lui une parole englobant le bien et l'orientant vers celui-ci. Il a donc dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: dis-moi une parole sur l'islam, c'est-à-dire une parole sur la législation, sur la religion de l'islam, au sujet de laquelle je n'interrogerai nul autre que toi, c'est-à-dire une parole essentielle, une parole claire et décisive, et il n'y a pas de doute que c'est ainsi que sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui répondit alors: dis, je crois en Allah, c'est-à-dire j'ai la foi en Allah. Et la foi, comme on l'a déjà vu dans des cours précédents, c'est une parole prononcée par la langue, une croyance du cœur et une œuvre du corps. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui enjoint ici de dire « je crois en Allah », il ne lui enjoint pas seulement de prononcer cette parole avec sa langue, mais il lui enjoint plutôt de le dire avec sa langue et de croire, d'accepter et d'affirmer dans son cœur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, dans sa divinisation, ainsi que dans ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas suffisant que tu prononces seulement cette parole avec ta langue, car ceci est la situation des hypocrites, ceux qui disent avec leur langue ce qui ne se trouve pas dans leur cœur. Alors que le croyant, ce qu'il prononce avec sa langue, cela reflète quoi? Cela reflète ce qui se trouve dans son cœur comme foi en Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, il n'est pas suffisant d'avoir la foi dans ton cœur sans la prononcer par ta langue, tout comme il n'est pas suffisant que tu la prononces par ta langue sans que ton cœur et tes œuvres soient droites. Il est donc indispensable que soient réunies les trois choses suivantes: la prononciation par la langue, la croyance du cœur et les œuvres du corps. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ensuite dit: puis tiens-toi sur la droiture, c'est-à-dire emprunte le droit chemin, le droit chemin qui n'est autre que la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc cheminer sur la droiture, cheminer sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et tu ne dois pas dévier de cette voie. Et si tu médites sur ces courtes paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, alors tu verras qu'il englobe la religion tout entière. Car la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique le fait de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Elle implique le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Tandis que la droiture, al-istiqama, elle implique le fait de suivre la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce en toutes choses. Ce hadith, il renferme donc les deux conditions d'acceptation de l'adoration. Ces deux conditions qui sont, comme on l'a déjà vu, al-ikhlas, la sincérité, ou al-mutaba'a, le suivi, c'est-à-dire le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car al-istiqama, c'est le fait de se conformer aux ordres, de la manière dont Allah a ordonné de les accomplir, sans ajout et sans diminution. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 112 de surat Hud: fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Tiens-toi sur le droit chemin, comme il t'est ordonné, ainsi que ceux qui sont revenus avec toi, c'est-à-dire ceux qui sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala avec toi. Ceci est donc un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adressé à qui? Adressé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous ceux qui ont cru en lui, de se tenir sur al-istiqama, de se tenir sur la droiture. Et comment doit-on s'y tenir? Comme il t'est ordonné. Fastaqim kama umirta. Tiens-toi sur le droit chemin, comme il t'est ordonné. C'est-à-dire de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a soutenu cela. Et il a appuyé ce sens en disant après, wala tatarau. Et ne commettez pas d'excès. C'est-à-dire, ne dépassez pas les limites en ajoutant des choses à la droiture et en agissant avec exagération ou de manière démesurée. Le musulman, donc, il doit agir de manière modérée, en empruntant la voie du juste milieu en toutes choses. Car l'homme, il peut sortir de la droiture par deux choses, soit par l'ajout à ce qui est légiféré, soit par la diminution et le manquement. Il est donc obligatoire, pour le musulman, de délaisser toute chose ajoutée, et de délaisser tout excès, et ce afin de rester sur la droiture. Quant à la diminution et au manquement, il n'y a pas de doute que l'homme est sujet au manquement. Personne parmi nous n'est à l'abri d'avoir des manquements, mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, il a légiféré pour nous al-istighfar, l'imploration du pardon. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 6 de Sourate Fussilat, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Tenez-vous sur le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne tout d'abord d'emprunter le droit chemin, qui est le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala, la voie de la droiture. Et ce, en croyant Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'en se soumettant à ses ordres et en s'écartant de ses interdits, tout en étant constant sur cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisé ici que tu dois te tenir sur ce chemin vers lui. Fastaqimu ilayhi. Tenez-vous sur le droit chemin vers lui. Et ce afin d'attirer ton attention sur quoi? Sur le fait que tu dois œuvrer avec ikhlas, avec sincérité. C'est-à-dire que tu ne chemines sur cette voie que recherchant à atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que ton œuvre sera acceptée, inshallah. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a pleine connaissance de la faiblesse de ses serviteurs, et que personne parmi nous n'est à l'abri des erreurs, et que personne parmi nous n'est à l'abri des manquements, même si tu veilles à rester sur la droiture, la défaillance, elle est inévitable. Que ce soit une négligence, ou un manquement vis-à-vis d'un ordre, ou alors en commettant un interdit. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a indiqué le remède à cela. Il t'a ordonné à l'istighfar, l'imploration de son pardon, qui implique nécessairement le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Tenez-vous sur le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle effacera alors ce qui provient de toi, comme manquement, comme négligence ou comme erreur. Tu dois donc persévérer sur ce droit chemin et ne pas négliger cet ordre, afin de rester sur la droiture, te soumettant ainsi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans ce hadith. Ceci était donc une explication résumée de ce hadith, et comme d'habitude, on va maintenant énumérer certains bénéfices que l'on tire de ce hadith. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith le désir qu'avaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum à apprendre la science profitable, en posant ce genre de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le musulman, il doit prendre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum pour modèle, il doit suivre leurs traces. Donc, tu dois toujours être désireux d'apprendre la science profitable, surtout lorsque tu as l'opportunité de te trouver auprès de gens de science ou auprès d'étudiants en science. Tu ne dois pas laisser passer une occasion de profiter d'eux et de profiter de leur savoir, aussi moindre soit-il. Deuxièmement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith l'intelligence de ce noble compagnon, Sofyan ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu. Regardez cette question immense qu'il a posée, afin d'avoir une réponse riche en enseignement, après laquelle il n'avait plus besoin d'interroger personne à ce sujet. Et ceci nous indique Le troisième bénéfice de ce hadith, qui est que lorsque l'homme a une question à poser, il lui convient de s'orienter vers la personne la plus savante, et ce dans la mesure du possible. Regardez ici la question de Sofiane, radiyallahu ta'ala anhu. Dis-moi une parole sur l'islam au sujet de laquelle je n'interrogerai nul autre que toi. Il est parti poser cette question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était possible pour lui d'interroger un des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comme Abu Bakr ou Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, ou autre parmi ceux qui avaient plus de connaissances que lui. Mais il est parti interroger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant des hommes au sujet de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce de façon absolue. De la même manière, lorsque le musulman a une question, il se dirige vers le plus savant concernant le domaine sur lequel il interroge. Et ceci n'est en aucun cas une forme de mépris envers les autres savants. Si tu as devant toi un savant spécialisé dans la langue arabe, un autre spécialisé dans le hadith, un autre spécialisé dans le tajwid, à titre d'exemple, et que toi ta question elle concerne le hadith, qui vas-tu interroger? Il n'y a pas de doute que tu vas interroger le savant spécialisé dans le hadith. Si tu n'as pas la science, ni les outils te permettant d'atteindre la vérité par toi-même, par la réponse de quel savant seras-tu le plus tranquillisé? Il n'y a pas de doute que tu seras tranquillisé par la réponse du spécialiste en la matière. Et il en est de même pour tous les autres domaines de la religion. Et ceci est une chose incontestable. Même concernant les domaines de la vie mondaine, les gens agissent ainsi. Si tu as un problème de moteur sur ta voiture, tu vas aller chez un carrossier? Si tu as mal aux dents, tu vas te rendre chez un cardiologue? Non. Est-ce que cela veut dire que tu méprises ou que tu rabaisses le carrossier ou le cardiologue? Non, bien au contraire. Mais tu t'es simplement dirigé vers la personne la plus savante concernant ta question. Et ceci est une chose connue auprès des gens de science. Quatrièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu accorder jawami'ul kalim, c'est-à-dire des paroles qui comportent peu de mots, mais de nombreux bénéfices, des bénéfices immenses, comme dans ce hadith. Vous voyez qu'il a réuni la religion tout entière en ces quelques mots. Et il y a dans cette parole une similitude avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset 13 de Surat Al-Ahqaf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ainsi que d'autres versets en ce sens, qui sont nombreux dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait d'utiliser le terme al-istiqama au lieu du terme al-iltizam. En effet, beaucoup de gens ils utilisent ce terme aujourd'hui. Ils disent al-iltizam lorsqu'ils veulent dire du bien d'une personne. Quant à son attachement à la religion, qu'est-ce qu'ils disent? Un tel est multazim. Mais ce qui est juste, c'est de dire il est mustaqim, comme cela est venu dans les textes du Coran et de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que celui qui est négligent quant à ses obligations, alors il n'est pas sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'il a dévié de la droiture, et sa déviance, elle est proportionnelle à la gravité de ce qu'il a délaissé comme obligation. Septièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait qu'il convient à l'homme de se remettre en question de manière continue. Tu dois toujours te demander si tu es sur le droit chemin ou non. Si tu vois que tu es sur la droiture, alors il t'incombe de louer Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et tu dois lui demander de te raffermir et de te maintenir sur son chemin. Car les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le retourne comme il veut. Tu dois donc multiplier cette invocation que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait « Allahumma ya muqallib al-qulub » ثبت قلبي على دينك. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Tu loues donc Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé sur ce droit chemin et tu lui demandes de te raffermir et de te maintenir sur ce chemin. Et si ce n'est pas le cas, si tu vois que tu n'es pas sur la droiture et que tu as dévié de celle-ci, alors tu dois te corriger et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en empruntant ce droit chemin. Ainsi, il est bon de savoir que celui, par exemple, qui retarde la prière de son temps,
Il n'est pas mustaqim. Il ne se tient pas sur le droit chemin. Celui, par exemple, qui ne verse pas la zakat, qui refuse de la donner, il n'est pas sur le droit chemin. De la même manière, celui qui transgresse l'honneur de ses frères par la médisance, la calomnie, la diffamation ou autre parmi les choses touchant à l'honneur des musulmans, alors celui-ci, il n'y a pas de doute qu'il n'est pas mustaqim, il n'est pas sur le droit chemin. De même, celui qui n'est pas honnête dans ses transactions, celui qui triche avec les gens lors de ses ventes et de ses achats ou autres transactions, alors il n'est pas mustaqim, et ainsi de suite concernant tous les domaines de la religion. Donc comme vous voyez, ce hadith il est très vaste, car l'istiqama, elle concerne chaque domaine de la religion. Et celui qui veut être mustaqim comme il se doit de rester sur le droit chemin dans tous les domaines de la religion. Et il ne doit pas négliger un domaine en dehors d'un autre, mais il doit faire des efforts pour se corriger continuellement afin de rester ferme sur ce droit chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et à la demeure des délices qui est le paradis. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs croyants, ceux qui se tiennent sur ce droit chemin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur ce droit chemin et de nous maintenir fermes sur celui-ci, et ce jusqu'au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.